Avec vous dans la première épître de Jean. La première épître de Jean. Vous savez que l'apôtre Jean est l'auteur de plusieurs textes dans l'Écriture. Tout d'abord, l'Évangile selon Jean. Et il est aussi l'auteur de l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean. Mais aussi, il est l'auteur de trois épîtres, trois lettres, trois courtes, dont deux sont vraiment très courtes, puisqu'elles ne contiennent qu'un seul chapitre. Mais la plus longue, c'est la première. Et nous allons lire cela ensemble. Chapitre 1er de la première épître de Jean. Et au verset 1er, voici ce que nous allons lire ensemble. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors, de qui parle-t-il ? Parle de qui, là ? Il a vu, il a touché. Nous est-il dit, il l'a contemplé, il y a même tout un message, entendre, voir, contempler, toucher, et qui concerne la parole de vie, celui qui, depuis le commencement, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, ouais, bien sûr, c'est Jésus. Et il nous est dit ceci, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, donc il reprend la phrase, « Et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. » Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire, c'est-à-dire qui nous rend propice, qui nous donne la faveur pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Gloire à Dieu. C'est simple, mais c'est riche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les mots sont très simples, très faciles à comprendre, mais c'est d'une grande richesse. Mais c'est normal parce qu'on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle de la relation que nous avons avec le Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un mot qui apparaît à trois reprises, même à quatre reprises dans ce que nous avons lu, c'est le mot communion. Le mot communion. Alors, je ne vais pas vous parler de... Voilà, parce que j'en vois certains, quand je leur parle de communion, ils se voient tout petits. Voilà, c'est pas ça, et ailleurs. Mais non, on va parler de communion, c'est-à-dire de relation avec le Seigneur. Et vous savez que l'apôtre Jean, l'Écriture nous dit qu'il avait une place particulière au milieu des douze parce que c'était le disciple que Jésus aimait. Vous vous souvenez de cela ? Alors, ça ne veut pas dire du tout que le Seigneur faisait des préférences et qu'entre les douze, il y avait un préféré, une espèce de chouchou. Non, non, ce n'est pas du tout cela, mais il y avait dans le cœur de Jean une affection particulière pour être proche du Seigneur, pour vivre des temps intimes. Et lorsque nous lisons l'Évangile selon Jean, eh bien, vous êtes peut-être surpris de voir que l'apôtre Jean décrit des situations d'intimité avec le Seigneur, des temps que seul lui décrit. Par exemple, Nicodème, eh bien, qui parle seul à seul avec Jésus. en pleine nuit, qui lui pose des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau ? Le Seigneur qui parle, eh bien, seul à seul, cœur à cœur avec cette femme samaritaine qui est là, qui vient chercher de l'eau en plein midi. Vous vous souvenez de cette chose ? Et Jésus lui dit, eh bien, si tu bois de cette eau, eh bien, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et nous voyons aussi que c'est dans cet évangile qu'il est écrit, eh bien, les dernières paroles du Seigneur, ce cœur à cœur avec ses disciples, eh bien, dans la chambre. Donc, c'est vraiment cet homme qui a vécu des temps d'intimité formidable avec le Seigneur et qui nous invite à découvrir cela. Et vous avez remarqué, et donc je reviens là-dessus, eh bien, sur le fait que le mot communion intervient, cette communion, afin que vous soyez en communion avec nous au verset 3, il nous est dit « Notre communion est avec le Père et avec son Fils. » Au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, etc. » Et puis au verset 7, il nous est dit « Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Donc je voudrais vous parler de cette communion-là, d'une communion et quelque chose qui va peut-être nous surprendre, mais qui existe dans la nature même de Dieu. La communion du Père avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Nous allons voir toutes ces choses. Combien il est important, Dieu nous appelle à être en communion avec lui et les uns avec les autres. Parce que dans la nature profonde de Dieu, elle est remplie de cette communion, de cette action, de cette interaction, voyez-vous. Et vous le remarquez vous-même dans votre fonctionnement, dans votre façon de vivre. Vous êtes un être normalement constitué. Son corps est en communion avec son esprit, oui ou non, avec sa pensée. Si y en a un qui va d'un côté et l'autre de l'autre, ça va mal se passer. Et d'ailleurs, la souffrance, c'est quoi ? Certains me disent, tu sais, je souffre parce que je voudrais faire ceci, mais mon corps ne peut pas le faire. Vous voyez ? Ça vous est paru ? Alors, voilà, il n'y a plus de communion entre les deux. Enfin, voilà, et peut-être la maladie, peut-être l'âge, etc., empêche ces choses-là. Mais nous voyons que nous sommes dans une situation où nous avons besoin, et non seulement à l'intérieur de nous-mêmes, être en communion avec Dieu, mais en communion les uns avec les autres. Alléluia. Et nous avons besoin d'apprendre et de comprendre, et peut-être un frère et une sœur ce matin, de dire que cette communion, elle a besoin d'être maintenue, elle a besoin d'être entretenue, et elle a besoin d'être protégée, et garder dans la vérité, et que ce soit eh bien, dans notre vie personnelle devant le Seigneur, que ce soit dans l'Église en tant que frères et sœurs, mais que ce soit dans nos familles, dans nos relations entre enfants, parents, époux, épouses. Et vous avez vu qu'à tous ces niveaux-là, nous sommes toujours en communion avec quelqu'un. Et l'homme qui est malheureux, c'est celui qui n'a pas de communion. C'est celui qui s'en sort. Et vous savez que dans nos sociétés occidentales, françaises, une grande source de souffrance, c'est quoi ? C'est la solitude. C'est la solitude. On est en communion avec personne. Je crois vous avoir parlé de ce serviteur de Dieu. C'était, il nous avait raconté ça à Paris. Il y avait une dame qui, une personne âgée qui voulait passer le passage piéton et elle avait du mal, la pauvre. Puis les voitures s'arrêtaient pas. Et lui, il a pris sous le bras et puis il y est allé. Il dit, venez madame, je veux... Il lui a parlé, etc. Elle s'est mise à pleurer. Il dit, mais ça fait 3 semaines que je n'ai pas adressé la parole à quelqu'un, que personne ne m'a parlé. C'est dur ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cela montre qu'un homme, une femme qui est privée de sa relation, de cette communion, de cette relation, et parfois il peut y avoir des coupures de relation, eh bien, entre Dieu et soi, c'est terrible. Relation rompue avec un enfant, relation rompue avec un époux, une épouse. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que le Seigneur, lui, veut restaurer toutes ces choses. Alléluia, amen. Est-ce que vous le croyez ? Alors, nous allons le voir ensemble. Tout d'abord, vous dire que, eh bien, elle existe, cette communion entre le Père et le Fils. Dans le verset 3, il nous est dit, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Et donc, nous découvrons ce que je disais, qu'à l'intérieur de la nature divine, eh bien, cette communion, elle existe, la communion du Père avec le Fils. Et même si le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible, la pensée de la Trinité est dans la Bible. D'ailleurs, Jésus dira, quand vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez ce que le Seigneur dit au chapitre 5, verset 20, dans l'évangile de Jean, cette fois-ci. Il nous est dit ceci, « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez eh bien, dans l'étonnement. » Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment une collaboration, une relation à l'intérieur de la nature de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit ? Ça veut dire que Dieu est à l'origine de toute chose. Il est le Père. Il est celui qui opère toute chose. Il est celui qui prépare toute chose. Il est celui qui conçoit toute chose. Et il le montre au Fils. Et le Fils est celui qui est Dieu, mais qui accomplit le plan que le Père eh bien, lui a soumis. Et le Fils eh bien, accomplit ce plan et avec l'action du Saint-Esprit qui bénit cette obéissance du Fils à l'égard du Père. Et si vous voulez bien comprendre ces choses-là, nous la voyons dans le plan du salut et dans la création du monde. C'est le Père qui a préparé eh bien, toute chose, qui, et nous l'avons chanté, nous l'avons vu, qui dès avant même que ce monde existe, avant la fondation du monde, nous dit, avant les temps éternels, nous dit l'Écriture, eh bien, a voulu créer l'humanité. Mais par omniscience, parce que Dieu sait tout, il n'est pas... vous savez, nous, on est piégés par le temps. On a besoin que les choses arrivent pour comprendre qu'elles vont arriver. On peut anticiper un petit peu, mais à notre mesure tellement faible. Mais Dieu, lui, il n'a pas besoin du temps pour savoir ce qui va se passer. Il est Dieu, alléluia ! Et il savait à l'avance eh bien, que l'homme désobéirait, serait séduit par Satan, la chute, le jardin d'Éden, le diable, et qu'il y aurait la mort et que la relation serait rompue. Et il avait prévu que le seul moyen eh bien, pour l'humanité d'être rétablie, d'être justifiée, d'être pardonnée, c'est qu'il y ait un sacrifice parfait. Dans tout l'univers, le seul qui soit capable de produire un sacrifice parfait, mais c'est Dieu lui-même, Dieu le Fils. Et le Fils, eh bien, pour que ce plan existe, a dû dire oui, devait dire oui. Et on s'aperçoit que tout s'est passé dans l'amour. Voilà une histoire d'amour entre Dieu et les hommes. Mais pour cela, pour que cette histoire perdure, il faudra que tu donnes ta vie. Me voici, envoie-moi, dit le Fils. Alléluia. Par amour pour nous. Alléluia. Amen. C'est un amour qui est éternel. Ça nous dépasse, n'est-ce pas ? Il fallait qu'il y ait la croix. Et ne pensez pas du tout que la croix, le sacrifice de Jésus, ce soit quelque chose qui soit amené comme une espèce de rustine, une espèce de pansement, un remède qui était improvisé au dernier moment. Non, en créant l'homme, Dieu savait qu'il aurait à payer le prix fort pour le sauver, pour lui manifester son amour en donnant son Fils. Et vous connaissez que le centre de la Bible, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Et remarquez, quand Jésus dit ces choses, il n'est pas encore mort à la croix, mais il dit, il a donné. Dans l'éternité, c'est fait. Et dans l'éternité, le Fils a dit oui, alléluia, amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Et ça parle d'amour. Dieu est amour, alléluia. Et dans la Trinité, dans la personne divine, eh bien, nous découvrons eh bien, que cet amour, eh bien, il est indissoluble, il est là. Et l'Écriture nous dit... Peut-être on pourrait le lire dans Épître aux Philippiens, au chapitre 2e. Philippe, au chapitre 2e. J'en profite pour vous faire part d'une expérience que j'ai vécue devant la télé. Ça vous intéresse ? Bon. Alors, hier, je me suis arrêté 5 minutes, je me suis mis sur le canapé, j'ai regardé la télé, et hop, c'était intéressant, là. J'ai zappé, et puis, il y avait des personnes, alors je sais pas, il faudra vérifier leur degré d'érudition, bon, qui parlaient du suaire de Turin. Vous savez, cette espèce de linge qu'on attribue au linge qui a revêtu le corps du Seigneur. Voilà, alors il y a des débats, certains disent c'est un faux, c'est une copie, mais d'autres disent mais c'est bizarre le visage, voilà, ça parle de la résurrection. Bon, moi je pense qu'on a vraiment besoin surtout du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'un objet, mais ça parlait de Jésus, donc moi, ça m'intéressait. Et surtout, ça peut être... et puis, surtout que le journaliste a posé une question intéressante à un homme d'église qui était là. Alors, quand je dis un homme d'église, enfin, bon, vous voyez. Hein. Et donc, il dit, mais pourquoi Jésus est mort ? Pourquoi, pourquoi fallait-il que Jésus meure ? Vous voyez ? Je lui ai dit, mais ce journaliste, il pose une super question. Et là, il y avait le monsieur qui était là après. Et il dit, mais est-ce que c'était la seule solution pour nous sauver ? Je lui ai dit, mais alors, Coco, vas-y, prêche la croix, alléluia. Et là, il dit, non, il y aurait pu avoir d'autres solutions. Voilà, mais c'est une des solutions que Dieu a voulu pour montrer qu'il est compatissant avec ceux qui souffrent, etc. Et maintenant, quand on souffre, on peut se souvenir que... Mais bien sûr qu'il y a cette... Mais non, il n'y avait pas d'autre solution que la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Je lui dis, mais relis la Bible. Alléluia. Amen. Et Romains chapitre 3, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, parce que Jésus est la victime propitiatoire, l'agneau de Dieu, alléluia. Je me dis, mais comment ça c'est que ça ne marche pas bien là hein? Bon, enfin voilà, c'était mon expérience devant la télé. Voilà, bon, vous voyez, il ne faut pas trop que je regarde la télé, parce qu'autrement ça m'excite. Voilà. Mais voyez ce qui nous est dit dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, on lit très rapidement, mais c'est extrêmement riche, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. L'Écriture nous dit que dans cette communion du Fils avec le Père, le Fils a choisi lui-même de s'humilier. Ce n'est pas le Père qui l'a humilié. Le Fils savait très bien ce qu'il devait faire. Il s'est humilié lui-même, se rendant lui-même obéissant jusqu'à la mort. Mais c'est ça l'obéissance. Si on contraint quelqu'un à obéir, c'est pas de l'obéissance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la tyrannie, c'est pas dans l'amour. Mais le Fils, lui, a obéi à son Père. Et l'Écriture nous dit, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et je voudrais juste arriver à ce point-là. Et jusqu'à la mort de la croix. Le stade ultime de la mort. Vous savez, s'il y a un niveau zéro concernant le péché de l'être humain, c'est à la croix. Peut-être avez-vous entendu encore une fois dans des informations des choses terribles. J'ai entendu cette semaine des choses abominables que l'on fait à des enfants. Je me suis dit, Seigneur, c'est la nature humaine, l'être humain, comment peut-il tomber aussi bas ? Je voudrais vous dire que le Seigneur, et le frère l'a dit tout à l'heure, hein, il a pris notre péché. 2 Corinthiens chapitre 5, je l'ai noté dans mes notes. Il nous est dit que celui qui n'avait point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est allé au rang le plus bas pour sauver tous les hommes. Et c'est lorsqu'il a accepté d'être au rang le plus bas, qu'il est mort sur cette croix, c'est là que Dieu l'a ressuscité et l'a ramené d'entre les morts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'où que l'on vienne, quoi que l'on ait fait, qui que l'on soit, eh bien le Seigneur est capable de te relever, de te faire passer de la mort à la vie. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia, amen ! C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il y a encore de l'espérance. Et nous savons une chose, c'est que quand on a cette relation, cette communion, que le pardon de nos péchés a été établi dans nos vies, on a la vie. Pourquoi ? Parce qu'on est en relation, on est en communion avec lui. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et le but du Seigneur, c'est de nous faire entrer dans cette relation, dans cette communion. Je voudrais dire simplement, peut-être à chacun d'entre nous, est-ce que nous profitons de cette communion. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. qui vit peut-être voilà, dans une espèce de crainte de Dieu. Il y a un Dieu, il faut que je respecte, etc. Je crois, etc. Le ciel, la terre. Oui, mais est-ce qu'il t'a sauvé de tes péchés? Est-ce que tu as cette relation avec le Seigneur? Est-ce que malgré ton passé, tes erreurs, tes échecs, est-ce que tu as l'assurance que tes péchés ont été pardonnés? Est-ce que tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur? Est-ce que si ce jour était ton heure dernière, eh bien si tu devais passer dans l'éternité, est-ce que tu as cette assurance que tes yeux verront Jésus? J'ai cette assurance parce que j'ai fait de Jésus mon sauveur. Alléluia, il m'a sauvé, non pas en raison de mes bonnes œuvres, mais en raison de son amour et de la justice qu'il a établie à la croix. Et pour toi, alléluia, ça peut être la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Et cela eh bien, est merveilleux. Donc, cette communion que nous avons avec le Seigneur et dans laquelle nous sommes introduits. Et je voudrais dire ceci, bien, cette communion, eh bien, elle doit être maintenue. Dans la parole de Dieu, nous voyons que des hommes et des femmes ont été attaqués dans leur communion. Je pense à Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Je pense à Job dans sa maladie, dans ses souffrances, eh bien, qui était troublé dans ses maladies. Je pense à Étienne qui était persécuté, qui sera lapidé parce qu'il place sa foi dans le Seigneur. Et tous ces hommes ont été attaqués dans leur relation et dans leur communion avec le Seigneur. Mais je découvre une chose, c'est qu'à chaque fois, eh bien, parce que Dieu est fidèle, eh bien, Ève a retrouvé sa relation avec Dieu. L'Écriture nous dit que Job a eu une révélation, mais malgré les souffrances, Dieu a toujours été là à ses côtés et ses yeux se sont ouverts. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Alléluia. Mais tu étais là, même quand je comprenais rien du tout. Tu étais là. Récemment, je relisais le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Vous savez, ce chapitre qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Est-ce que ce sera l'angoisse, la persécution, etc. etc. ?» Vous vous souvenez de tout cela ? Vous souvenez comment ça commence ? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça se termine. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia ! Amen ! Et ça veut dire que cette communion, Dieu la maintient. Alléluia ! Quoi qu'il puisse arriver, l'Écriture nous montre eh bien, qu'au travers du sang de Jésus, nous avons une entrée efficace. Et l'Écriture nous dit même, si quelqu'un a péché, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de pécher. Loin de là. Et jamais se servir de cela pour dire, bah, puisque le Seigneur va me pardonner. Si vous jouez à ce petit jeu-là, vous jouez à un jeu très dangereux. Parce que celui qui va vous corrompre, c'est l'ennemi de vos âmes. Mais l'Écriture nous dit, si quelqu'un a péché, alors nous avons un avocat pour celui qui se repent, pour celui qui ne veut pas rester sous la puissance des ténèbres. Et il te pardonne, il te purifie de toute iniquité. Alléluia, amen. Ça veut dire que cette relation, eh bien, le Seigneur veille eh bien, à ce qu'elle soit eh bien, maintenue. Et je me dis également que si nous avons un avocat auprès du Père, nous devons être aussi des avocats les uns pour les autres. Je voudrais insister non pas simplement sur notre relation verticale, mais sur nos relations horizontales, familiales. Colossiens chapitre 3, verset 21. Père, les papas, j'en suis un, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. On peut avoir parfois des enfants qui passent par des temps un peu compliqués et qui, des fois, ils peuvent nous énerver, oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il n'a pas compris encore. Je vois un homme d'expérience qui sourit. Voilà. Hein. Mais l'Écriture nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. L'Écriture nous montre que dans son amour, Dieu qui est notre Père nous a donné son Fils et a montré que, comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Dans la Bible, le Père, ce n'est pas celui qui domine, qui tape du poing sur la table et qui dit « Personne ne parle, c'est moi qui dis le dernier mot ». Ce n'est pas comme ça. Ça ne s'appelle pas de la relation, ça ne s'appelle pas de la communion. Mais l'Écriture nous dit « Il est celui qui éduque ». Il est celui qui apprend comment marcher, comment vivre. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alléluia. J'entre dans une relation où le Seigneur parle. Alléluia. Le Seigneur instruit. Le Seigneur eh bien, fait découvrir eh bien, toutes ces choses. Et en ce qui nous concerne, Eh bien, peut-être avons-nous besoin aussi, en tant qu'Église, d'être des avocats les uns pour les autres. Heureusement que dans la Bible, il y a eu un certain Barnabas qui a pris sous son aile un jeune converti du nom de Saul de Tarse. Il faisait peur avec sa grosse barbe. C'était un fanatique religieux. Il a dit, j'ai rencontré Jésus, personne ne le croyait. Mais heureusement qu'il y a eu ce Barnabas qui l'a pris sous son aile. S'il n'y avait pas eu un Barnabas pour prendre sa défense, il a vraiment rencontré Jésus, moi je le crois. Eh bien, jamais on aurait eu l'apôtre Paul dans l'église de Christ. Je me souviens de cette jeune fille dont la mère était prostituée, qui commençait à vivre une sale vie, c'était à Toulon. Et elle a rencontré ce pasteur, elle n'avait pas tout compris, elle est venue dans une réunion. Elle a dit, mais j'ai donné mon cœur au Seigneur, je veux changer de vie. Est-ce que vous voulez que je me fasse baptiser? Je veux me faire baptiser. Et ça menait un petit peu de désordre dans l'assemblée. Et il a dit, mais moi, je te crois. Moi, je te baptise. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Amen. Que nous puissions être de celles et ceux qui ne mettent pas des freins, mais même dans nos relations entre nous, eh bien, que nous nous défendions les uns les autres. Alléluia. En maintenant cette relation, cette communion. Alléluia, amen. C'est ça que ça veut dire, être des frères et des sœurs. On va voir encore autre chose. Parce que cette relation, donc, elle est maintenue par le sang de Jésus, elle est maintenue. Et je crois que le pardon a quelque chose d'extraordinaire à voir dans tout cela. Et je voudrais vous dire ceci, mon frère, ma sœur, si tu as fait du mal à un de tes frères, mais il faut que tu demandes pardon parce que cette relation va être, cette communion va être entamée. Et si tu sais que telle personne t'a fait du mal, mais aussi prie pour que tu aies la force de pardonner. Ça nous est arrivé, ça m'est arrivé de vivre des injustices dans lesquelles on m'a fait du mal. Je n'avais rien recherché et bing, ça m'est tombé dessus. Et j'ai remarqué que le cœur humain, même si j'avais rencontré le Seigneur, dans mon cœur, Seigneur, je me suis battu avec des pensées, avec des idées. Ça vous arrive jamais de vivre un match de boxe virtuel? Enfin, je veux le rencontrer, lui, tu vas voir, Seigneur, je veux lui. Heureusement que des fois, ça s'arrête que là. Mais enfin, quand même, nos pensées, hein, elles ne sont pas à la gloire de Dieu. Il faut se battre, Seigneur, donne-moi de pardonner comme tu pardonnes, d'être rempli de ton Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire ceci. Le Seigneur a été capable de faire dans mon cœur des miracles. Alors, je ne dis pas un miracle dans le sens je boitais, etc., je me suis remis, ce n'est pas ça. Mais le miracle de pardonner et d'aimer quelqu'un qui ne m'aimait pas et qui m'avait fait du mal. Pour moi, c'est un miracle. Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia. De souhaiter le bien et de bénir, on va parler comme la parole de Dieu, son ennemi. Eh oui, ça c'est la grâce de Dieu, alléluia. Et que le Seigneur nous visite, nous renouvelle, amen. Et cette communion qui est maintenue par le pardon, par Christ, par le fait qu'il soit celui qui intercède pour nous, eh bien, elle doit être entretenue. Vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu, il nous est dit que celui qui dit qu'il l'a rencontré doit marcher dans ses voies. Je vais reprendre exactement ce qui nous est dit dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 4, il nous est dit, celui qui dit « je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui ». C'est normal. Quand on marche avec quelqu'un qu'on aime et qu'on apprend à le connaître, eh bien, on veut lui plaire. Et l'action du Saint-Esprit dans nos vies, quelle est-elle? Eh bien, elle est non seulement de nous faire comprendre qui est Jésus, de nous entretenir dans cette relation avec le Seigneur, mais également de nous faire grandir dans cette relation. Et on comprend qu'il s'agit là de sanctification. Vous savez, et je parle peut-être là à des couples qui sont mariés depuis des années, et je vais me faire comprendre. L'amour que l'on a pour son épouse, avec les années, il doit grandir, il doit s'améliorer. Parce qu'au début, on se connaissait, mais la vie partagée était vraiment mince. Et puis, avec les années, on apprend à se connaître. Il y a tout un passé, des bagages, des expériences, des rires ensemble, des larmes ensemble. Et on apprend à connaître qui est l'autre, ce qui lui plaît, ce qui lui a fait de la peine. Ça vous est jamais arrivé, vous, messieurs, de faire de la peine à votre conjointe? De dire, oulala, ça, il ne faut plus que j'agisse comme ça. Je répète à l'égard de nos enfants. Mais si on dit non, c'est moi qui ai raison, je ne changerai pas, ne vous plaignez pas, c'est la relation entre mari et femme va se détériorer. C'est normal. Parce que de la même manière que j'ai besoin que ma relation avec le Seigneur progresse et qu'elle grandisse, et que je dois veiller sur le fait de veiller sur mes pas, sur mes commandements, sur ses commandements, mais de la même manière, dans nos relations, les uns avec les autres, et entre époux, entre épouses notamment, parce qu'il s'agit vraiment là d'une communion, et certainement, c'est la communion la plus étroite que nous ayons sur cette terre avec un homme, une femme, bien, j'ai besoin de l'entretenir. Lorsque je me suis, lorsque nous nous sommes mariés avec Anne, le pasteur, c'était le frère Bergamini, avait dit ceci, eh bien, il faut ensemble, mari et femme, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup parler, et il faut beaucoup pardonner. Et moi, j'ai rajouté aussi, protéger. Eh oui, protéger. On doit protéger tout cela. Vous voyez, c'est une relation qui doit se protéger. Et je voudrais dire ceci, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veilles, est-ce que tu entretiens, eh bien, cette relation, cette communion, est-ce que tu fais bien les efforts que tu devrais faire, eh bien, pour que le Seigneur puisse eh bien, bénir eh bien, ton couple, ta famille, mais ta vie spirituelle. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais si je vais dans la première épître de Pierre, vous connaissez ce texte, pour vous, messieurs, et pour moi aussi, hein. Vous voulez qu'on le lise ? Dans 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Veille sur ta relation, sur ta communion avec le Seigneur. « Ouais, mais on est mariés, voilà, c'est comme si... » Oui, mais bien sûr, ça, rien n'est remis en question. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton mariage ? Est-ce que tu es un dominateur, un dictateur ? Ou est-ce que tu es un mari aimant qui aime son épouse, qui aimera alors se mettre à l'abri, qui aimera cette autorité qui vient de Dieu ? Alléluia, parce que l'homme n'est pas une femme et la femme n'est pas un homme. Mais bon, voilà. Alléluia, on s'entend bien là-dessus ? Vous êtes d'accord avec ça ? D'entretenir cette relation et cette communion, mais non seulement entre époux et épouse, mais également dans l'Église de Christ. Dans l'Église de Christ. Parce que si je lis la parole de Dieu, je m'aperçois que la Bible nous invite à ce que aucun d'entre nous ne soyons une occasion de chute pour nos frères et nos sœurs. Vous voyez que c'est une histoire extrêmement importante, cette communion, parce qu'elle débouche sur la vie. Le meilleur endroit où l'endroit que vous devriez préférer, c'est ici. C'est la communion fraternelle. Parce que vous devriez être assuré que, en tout temps, ici, dans ce lieu, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré le Christ Jésus, qui sont remplis du Saint-Esprit, vous allez découvrir des hommes et des femmes qui vont vous bénir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous parler de la part de Dieu, alléluia, et qui ne vont pas être pour vous une occasion de chute parce qu'ils vont veiller sur ce qu'ils vont dire. Et si je lis avec vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, je vous fais tourner les pages de la Bible, mais bon, ne me reprochez pas ça, hein, qu'on lise la parole de Dieu. Romains chapitre 15 et le verset 1er, et même... Pardon, le verset 4, chapitre 14, pardon, il est dit au verset 12, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Et l'apôtre insiste au chapitre 15 en disant, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Je ne cherche pas ma satisfaction personnelle, et chacun nous devrions parler ainsi, mais je cherche la satisfaction du peuple de Dieu et de l'Église. Alléluia. Et si, pour un aliment, j'attriste mon frère, imaginons que j'invite quelqu'un à la maison qui a un problème avec l'alcoolisme, qui a eu un problème. Je ne vais pas le tenter inutilement avec une bouteille de vin posée sur... je ne vais pas le troubler. Même, mes frères et sœurs, il peut y avoir parfois des plaisanteries qui peuvent faire du mal. Ah, c'est drôle, c'est rigolo, mais tu as blessé quelqu'un. Tu as blessé parce que tu as égratigné peut-être sa culture, tu as fait ceci, cela. Alors, on ne veut pas être des hypersensibles, mais quand même, on ne veut rien faire qui soit pour notre frère, pour notre sœur, une occasion de chute. Et c'est pour cela que c'est important, la vie dans l'Église. Parce que tout ça, c'est une histoire d'amour. Et je voudrais vous dire, mais l'Église, ça devrait être, et c'est pour moi, mais le paradis sur la terre, alléluia. Là où on rencontre des hommes et des femmes qui marchent avec Jésus, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Alors cette communion, relation, nous avons la vie en Christ, elle est maintenue parce que le Seigneur est celui qui veille, mais nous avons besoin de la maintenir les uns avec les autres et de l'entretenir et de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il y a un frère et une sœur à qui je n'ai pas parlé? Est-ce qu'il y a un frère... Quelqu'un m'a dit cette semaine, notre église, elle est petite mais elle est grande. Alors j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on n'est pas la méga church, mais quand même, il y a du monde. Et parfois, c'est compliqué de savoir qui est qui, etc. Voilà. Voilà, il nous manque un peu de monde. Voilà, mais mes frères et sœurs, c'est vrai, on devrait se poser la question. Seigneur, est-ce que j'ai pensé à tout le monde? Est-ce que je téléphone ou je parle simplement à un petit groupe que je connais? Ou est-ce que je fais l'effort d'aller vers un tel pour lui demander comment ça va et avoir cette relation, cet entretien. Alléluia, amen. Ça s'entretient, cette relation avec le Seigneur. Oui ou non? Amen. L'Écriture nous dit que Dieu lui-même fait ainsi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais rétablir cette relation, cette communion, il va y avoir la vie. Alléluia. Mais c'est merveilleux, alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a quelque temps en arrière, je me souviens, il y a un frère qui m'a dit, tu sais, je t'ai pas répondu au téléphone, il était entrepreneur, j'étais débordé de boulot, et j'avais même pas le temps de bosser et de prier. Simplement, le matin, je lisais deux versets et je priais. Et ce jour-là, il m'a dit ceci, Seigneur, fais-moi voir qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. Et ce jour-là, je l'appelle, je tombe sur son répondeur et je lui dis, Pierre-Alain, écoute, voilà, j'espère que tu vas bien. Écoute, en tout cas, je voudrais te dire, on prie pour toi. Lui, il a écouté le message, il a dit, merci Seigneur. Mais ça l'a encouragé, ça fait du bien, alléluia, de savoir qu'il y a des frères et des sœurs pour qui on compte, pour qui on a de la valeur, pour qui on est précieux, pour qui, lorsque... on n'est pas là, pour qui lorsqu'on est absent, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il n'est pas là? Ou alors, ça vous est jamais arrivé? Bon, il ne faut pas devenir hypersensible aussi, hein. Mais dire, mais, j'espère que à travers de cette parole, je ne l'ai pas blessé. On a besoin d'être attentif. Je pense qu'on a besoin d'entretenir un cœur qui veille les uns sur les autres, alléluia, afin de ne rien faire qui soit une occasion de chute. Je termine, parce que j'ai 5 minutes. Donc, vous ne pouvez pas me le reprocher, celle-là. Voilà. C'est une communion aussi, qui est à protéger, qui est à défendre. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une communion qui est attaquée. Je vous ai parlé de Ève, etc. Et l'Écriture nous dit, Alors regardez, on va lire dans 1 Jean, vous êtes toujours là, je le vois, et 1 Jean au chapitre 5 et au verset 20e. 1 Jean chapitre 5 et le verset 20, il nous est dit ceci. 1 Jean chapitre 5 et le verset 20, il nous est dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a dans les épîtres de Jean un aspect eschatologique, c'est-à-dire qui annonce les temps de la fin. Et qui dit qu'il va y avoir une série de tentations, de séductions sur l'Église. Et dans toujours cette épître de Jean, il nous est dit au chapitre 2, verset 26, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements, etc. » Il nous est parlé là de l'action du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pour cela que je voudrais insister avec la parole du Seigneur. Toi qui viens de rencontrer Jésus, toi qui as accepté Jésus pour ton sauveur, toi qui es passé par les eaux du baptême, mais recherche activement, passionnément, mais assidûment le baptême du Saint-Esprit, afin que tu sois complètement rempli du Saint-Esprit, que tu sois visité et que... tu sois gardé dans cette communion avec le Seigneur, avec force et puissance, dans la vérité. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important, mes frères et sœurs, que dans la communion fraternelle, lorsque l'Église se rassemble, il puisse y avoir l'exercice des dons spirituels. Ne méprisez pas, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, nous dit l'Écriture. Parce que elles nous font progresser eh bien, dans notre vie spirituelle. Elle nous prévient. Je crois que ce matin, le Seigneur a prévenu quelqu'un. Alléluia, au travers de sa parole. Alléluia. Et tout cela eh bien, nous invite à considérer eh bien, que cette communion, eh bien, elle est à garder, elle est à protéger, elle est à entretenir. Et nous avons besoin eh bien, de veiller les uns sur les autres. Alléluia. Et d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais terminer totalement sur ce dernier aspect de veiller sur notre communion. C'est nous-mêmes que le Seigneur va utiliser, rempli du Saint-Esprit, pour que nous restions dans la vérité. Parce que la manifestation du Saint-Esprit, alors merci Seigneur, elle peut se faire directement en moi, dans mon cœur, mais parfois je comprends pas tout, je suis pas disposé. Mais quelqu'un qui est libéré peut-être dans sa tête, dans son cœur de certains soucis, eh bien peut avoir la pensée du Seigneur et être un canal de bénédiction. Et là, Dieu l'utilise. Et mes frères et sœurs, cela signifie que lorsque nous nous retrouvons les uns les autres, nous devons nous mettre dans la pensée de dire, mais Seigneur, utilise-moi. Moi, Seigneur, je suis en communion avec toi. Gloire soit rendue, je veille sur ma vie, je veux faire des progrès, la sanctification, parce que je comprends que si je ne marche pas dans la sanctification, eh bien, ça ne va pas passer entre nous. Donc je veux t'obéir encore davantage. Mais je suis aussi en relation avec mes frères et sœurs. Ce sont mes frères et mes sœurs et je dois veiller sur eux. Mais Seigneur, pour veiller sur mes frères et mes sœurs, non pas avec une intelligence humaine, devenir quelqu'un de légaliste, un gendarme, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors Seigneur, avant que je vienne, que je me rassemble auprès de mes frères et mes sœurs, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Visite-moi, que je puisse être un canal de bénédiction pour eux. Amen. Alléluia. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'on ne donnera, on se donnera les uns aux autres que ce qu'on aura d'abord reçu de la part du Seigneur. Je n'ai ni or ni argent, dira Pierre, à un boiteux, mais ce que j'ai, je te le donne. Comment ça se fait que tu l'as, Pierre? Mais parce qu'il avait déjà reçu en amont de la part du Seigneur, eh bien, cette puissance et cette autorité de Jésus. Allez, lève-toi et marche. Je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, eh bien, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et cet homme se remet eh bien, à marcher. Alléluia. Et gloire soit rendue au Seigneur. Combien d'hommes et de frères et de sœurs, entendant un message, une prédication, en entendant un don spirituel, en chantant un chant, se sont remis à marcher. parce que ça venait du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Combien de frères et de sœurs, au travers d'un coup de téléphone, au travers d'un témoignage, d'une conversation inspirée à l'issue d'un culte, se sont remis en marche parce que le Seigneur a utilisé. Alléluia et a béni. Amen. Gloire à Dieu. Et tout cela, ça, c'est la bénédiction de la cause. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. On va prier le Seigneur. Amen. Vous voulez bien ? Quelques instants. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce grand amour que tu as manifesté envers nous. Seigneur, nous voyons combien il est important ce petit mot de communion, d'être en relation. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes, Seigneur, dans un monde qui est individualiste, égoïste, égocentrique. Et Seigneur, nous pensons tellement souvent à nos propres intérêts plutôt qu'aux tiens. Et Seigneur, tes intérêts, c'est l'Église. Tes intérêts, c'est mon frère, ma sœur. Parce que c'est pour mon frère, ma sœur, c'est pour chacun d'entre nous que tu as donné ta vie. C'est pour, si ton sang a été versé, c'est pour nous racheter les uns et les autres. Et Seigneur, je te prie, afin que nous développions davantage, Seigneur, cette communion fraternelle, que nous apprenions davantage, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Seigneur, à nous édifier les uns et les autres. Seigneur, dans cette période qui vient, Seigneur, de mois d'été, Seigneur, cette période estivale, Seigneur, qu'il n'y ait pas de relâchement dans notre communion fraternelle. Et je te prie afin que, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est seul au milieu de nous, Seigneur, mais que, Seigneur, un frère et une sœur puissent en prendre conscience, le réaliser et dire, mais voilà, je vais soigner cette relation, cette communion fraternelle. Je vais, Seigneur, utilise-moi pour que cette solitude soit chassée. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien que l'on prie ainsi ? Et là, à notre place, vous ne priez pas pour vous, mais vous priez pour votre frère, votre sœur, en disant, mais Seigneur, utilise-moi pour que je sois un sujet de bénédiction, peut-être pour mon épouse, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon frère, pour ma sœur, etc. Seigneur, utilise-moi afin que je sois un canal de bénédiction. Et peut-être que la situation difficile que tu rencontres dans ton foyer a sa solution dans un changement d'attitude de cœur, peut-être même au niveau du travail, dans tes relations. Et si tu changeais ? Et si tu acceptais que le Seigneur te transforme, te change ? Si tu laissais le Saint-Esprit faire de toi cet homme, cette femme qui pardonne, qui aime, qui rétablit, qui restaure. Alléluia. À toi la gloire. Quelques secondes sous le regard de Jésus. Quelques secondes. Seigneur, nous te bénissons. Te louons, Père, dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui voulait que l'on prie pour lui, pour elle, en disant, voilà, j'ai besoin d'être rétabli dans cette relation, cette communion avec Dieu. J'ai besoin d'avoir cette communion. Oui, il y a une main qui se lève. Alléluia. Si quelqu'un voulait qu'on prie pour lui, vous levez votre main, disant, oui, voilà, il y a des mains qui se lèvent. Alléluia. J'ai besoin d'être rétabli. J'ai besoin d'être renouvelé. Merci, Seigneur. Oui, oui, j'ai vu vos mains. Gloire à Dieu. Oui, oui, gloire à Dieu. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, tu vois, c'est bien aimé. Seigneur, qui peut-être passent par des temps difficiles, qui ont entamé, Seigneur, leur communion, leur relation, leur compréhension, Seigneur, de tes plans dans leur vie. Et Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, tu nous montres que tu es celui qui veille pour nous, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que tu es notre avocat, que tu intercèdes pour nous. Seigneur, que la porte, elle n'est pas fermée, mais elle est ouverte. Et s'il y avait au milieu de nous un fils prodigue, Seigneur, qu'il se souvienne que, Seigneur, la maison du Père était ouverte et que le Père a accueilli celui qui était de retour. Seigneur mon Dieu, nous voulons te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour tout cela. Seigneur, tu rétablis, tu relèves, tu pardonnes, tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons et pensons. Et Seigneur, merci pour ton Église. Elle est belle, ton Église. Seigneur, c'est la tienne, alléluia. Et combien nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir des frères et des sœurs. Seigneur, mais fais-nous grandir dans tes voies. Fais-nous grandir à cet égard. Je te le demande, Père, dans le nom précieux de Jésus, que l'on soit jeune, que l'on soit âgé, que l'on soit, Seigneur, dans la maturité. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous grandir dans tes voies. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous. On se retrouve mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.